Bien, mesdames, messieurs, merci donc d'être présents pour cette rencontre avec Jacques de Cona pour son ouvrage paru aux éditions Sud-Ouest, Toussaint, l'ouverture. Alors, je vais présenter Monsieur de Cona, si vous permettez. Alors, vous êtes né à Bordeaux,
et oui.
Docteur d'État, commandeur de l'Ordre national d'Haïti, chercheur associé au Conseil scientifique du Centre international de recherche sur les esclavages au CNRS, et titulaire de la chaire d'Haïti à Bordeaux, qui, je crois, est la seule en France.
Oui, la première.
C'est la première.
Espérons, il y en aura d'autres.
Bon, donc la première en France. Alors, vous avez écrit une douzaine d'ouvrages avant celui-ci, qui sont dont les sujets qui vont des troubadours aux flibustiers, se passent généralement entre la Gascogne et les Caraïbes, dirons-nous.
Exactement. Exactement.
Ouais, vous êtes quand même très topographiquement situé. Donc, nous sommes avec Toussaint l'ouverture. Alors, on ne peut pas dire de ce personnage qu'on ne présente plus, puisqu'il faut le présenter. Alors, pour le présenter, on peut dire peut-être, pour commencer, que c'est un personnage exceptionnel, dans une époque qu'il est tout autant, et qui est né et qui a évolué et fait changer une terre qui aussi l'est, du moins à l'époque où il naît, en 1743, donc sous Louis XV. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Haïti à cette époque-là?
Oui, Haïti à cette époque-là ne s'appelle pas encore Haïti, puisqu'elle est la partie française de Saint-Domingue. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on connaît, c'est Haïti, la République d'Haïti, qui s'est faite donc en 1804, après l'insurrection des esclaves, et qui a proclamé son indépendance et qui a été la première République noire du monde. Il faut dire que ce nom d'Haïti est tout à fait juste, puisque c'est le nom indien qu'avait l'île auparavant, et que les Haïtiens, pour bien marquer la rupture, les esclaves insurgés et les maîtres mulâtres qui eux-mêmes avaient des esclaves, enfin c'est une histoire très compliquée, mais les noirs et les mulâtres, disons, insurgés, et quelques blancs aussi, il faut bien le dire, ont décidé de rompre complètement avec la France, et pour cela ont abandonné le nom de Saint-Domingue, qui était une déformation du Santo Domingo espagnol, ce qui fait que l'île a trois noms finalement. Colomb l'avait baptisé Hispaniola, les Indiens l'appelaient Haïti, les Français l'appelaient Côte de Saint-Domingue, île et côte de Saint-Domingue, puisqu'il y avait la fameuse île de la Tortue, et puis finalement, à l'arrivée, elle s'est redevenue Haïti pour marquer la rupture avec la France, et c'est aujourd'hui donc la République d'Haïti, et qui est assez souvent au centre de l'actualité, pas toujours comme on aimerait qu'elle le soit, c'est-à-dire à l'occasion de catastrophes épouvantables, et puis jusqu'à ce qu'elle retombe dans l'oubli et qu'on y revienne avec une autre catastrophe. D'ailleurs, il y a peut-être une anecdote quand même qui m'a... Personnellement, moi, ça m'a choqué et je tiens à vous le dire. J'ai entendu récemment, dans une émission, comme on en voit beaucoup à la télévision, voilà, vous gagnez à la loterie ou je ne sais quoi, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez une belle voiture, vous faites refaire votre maison ou vous achetez une nouvelle résidence ou vous faites un don à Haïti? J'ai trouvé cette question assez choquante.
Donc, Haïti donc dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, vous l'appelez l'Eldorado des Aquitains.
Voilà, effectivement, mon anecdote m'avait fait digresser, sans dire l'essentiel, c'est que cette colonie, tout de même, elle nous est très proche, puisque à peu près 40% des colons étaient d'origine aquitaine et gasconne, et qu'à ce titre, elle a été imprégnée de culture gasconne, tout comme notre personnage, Toussaint, qui a été élevé chez des Gascons, le comte de Noé, qui a eu un maître gascon, Bayon de Liberta, lui aussi gascon. D'ailleurs, on a des noms extraordinaires, vous voyez, Toussaint l'ouverture, qui ouvre la porte à tous ces esclaves noirs qui n'étaient que des objets, des meubles, comme selon le code civil. Et puis Bayon de Liberta, qui est l'homme qui a franchi Toussaint, qui est à la fois dans son nom le Bayon, hein, qui bâillonne les esclaves et la liberté. On dirait parfois, vous savez, l'histoire est parfois plus surprenante que la réalité, ou que tout ce qu'on peut imaginer, ou tout, comme disait Shakespeare, tout ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre.
Donc, c'est exact. Et de, l'origine, disons, de ce nom, de l'ouverture. Hein, il,
alors là, on ne sait pas trop, dans le fond. Hein.
Alors, bon. A posteriori, on peut lui donner des. On peut lui donner effectivement du sens. Voilà. Mais voilà. On ne sait pas.
Ben, comme disait Victor Hugo, les meilleurs livres sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié. Vous voyez. quand vous lisez une poésie, vous y mettez beaucoup du vôtre. Hein. Là, on peut effectivement le faire. Et en réalité, bon, le personnage est très sujet à légende. Et on peut tout dire quand on ne sait pas. Le travail de l'historien, justement, c'est d'essayer de savoir et de transmettre. On a dit qu'il lui manquait des dents. Il avait reçu une blessure, effectivement, quand il est mort. On a trouvé quand même 17 blessures sur son corps. Hein. C'est un homme qui s'est battu. C'est un homme de guerre, hein, général. Il est devenu général, mais pas d'un seul coup, comme ça. Hein. Il n'était pas né général. Un autre a dit, et ça c'est plus vraisemblable, que c'est le commissaire civil de la République, Paul Vérel, qui est à l'origine, Étienne de Paul Vérel, syndic des États de Navarre, qui est à l'origine de la libération des esclaves, qui l'avait appelé ainsi devant ses succès militaires, en disant « Ah, mais cet homme fait ouverture partout ». On se battait en ligne, vous savez, à l'époque, et on établissait des lignes de défense. C'est plus vraisemblable comme, comme origine. Mais, encore une fois, on n'a pas de certitude. Comme on n'a pas de certitude sur son origine royale, dahoméenne, en fait, pour voilà. Béninoise, si vous préférez, dans le royaume qu'on appelait, qu'on appelle toujours royaume d'Alada. On a encore un roi d'Alada qui est venu au musée d'Aquitaine, là, et qui nous a invités d'ailleurs à venir le voir chez lui, là-bas, pour voir tout ça en ouverture. Et j'en viens à une chose importante, qui est que cet homme, qui est très méconnu, il commence à être un peu connu, ça, on va en dire un petit mot peut-être aussi, ici à Bordeaux, par une certaine actualité politique. Vous savez qu'on a voulu appeler le pont Toussaint l'ouverture. Ce à quoi on peut faire remarquer que le jour où il est fermé pour un embouteillage, c'est quand même pas terrible comme, comme idée. D'autant plus que, je dirais que la connaissance du personnage à Bordeaux est relativement récente. Je me souviens quand je suis arrivé il y a une vingtaine d'années, et c'est là qu'on mesure il faut mesurer de temps en temps le chemin parcouru. Le président de l'association des étudiants haïtiens m'avait invité à déjeuner pour que je lui parle de Toussaint l'ouverture. Parce qu'il était parti très jeune de son pays, et malheureusement, ici, il n'entendait jamais parler de Toussaint l'ouverture. Vous voyez, donc maintenant, quand même, il est assez connu à Bordeaux. On a fait mettre une plaque sur la maison où son fils est décédé, au 44 rue Fondaudèche, ça c'est historique. Il y a une plaque également sur la tombe au cimetière de la Chartreuse, où son fils est enterré avec sa femme, mais pas ses cendres. Et là encore, c'est toute une histoire, les cendres. Hein. On pourrait en parler longtemps. Il y a eu beaucoup de cérémonies, de transferts, etc. Mais on a pris de la terre au fort de Joux, où il est mort. Mais on a fait un transfert des cendres à la demande de Duvalier fils, comme on avait fait pour Napoléon à une certaine époque dans notre histoire. Le retour des cendres, mais bon. Et voilà, finalement, il est quand même un peu mieux connu à Bordeaux aujourd'hui. Et à tel point que on a voulu donc lui donner ce nom à ce pont. Il serait plus judicieux de donner son nom à une partie des quais, par exemple, ou accoster les navires qui partaient pour Saint-Domingue. Et comme je l'ai dit, pas seulement pour la traite des Noirs, comme certains se plaisent à le dire, ça c'est 5% du commerce colonial de Bordeaux. Les 95 autres %, c'est de la droiture, c'est-à-dire des bateaux qui partent directement là-bas, avec des produits aquitains, pour nourrir les colons, mais aussi les esclaves. Les farines, etc., et des chaudières pour faire du sucre, et des passagers, beaucoup de passagers, beaucoup de jeunes gens qu'on prend dans les campagnes, qui sont des engagés, qui sont des espèces d'esclaves blancs, qui s'engagent pour 3 ans parce qu'ils ne peuvent pas payer le voyage.
On les appelle les 36 mois.
Les 36 mois, 36 voilà, mois. Qui meurent là-bas. Enfin, c'est toute une histoire, comme toutes les histoires, complexes, riches. Il ne faut pas qu'elles soient schématisées. Et personnellement, comme beaucoup d'historiens, il y a effectivement un enjeu mémoriel, ça aussi on peut en dire un petit mot, mais,
absolument, oui.
Mais en même temps, l'histoire, elle est intangible. La mémoire, on en fait ce qu'on veut, elle est manipulable. On l'a vu à plusieurs occasions dans l'histoire récente. Mais l'histoire, les faits historiques, ils sont intangibles. Une fois que vous avez trouvé, grâce au progrès actuel, des mises en ligne dans les registres paroissiaux, les dossiers de personnel militaire, c'est énorme. On a pu trouver des dossiers sur Toussaint et sur des personnages qui lui étaient proches. Et dans la cartographie qui est mise en ligne aussi, pour les lieux où il a vécu. Une fois que vous avez pu trouver des choses là qui sont dans les archives, c'est intangible, on ne peut pas le changer, c'est fini. Et tous ceux qui ont dit avant, ben voilà, il est tenu sur une plantation qui était comme ci, comme ça, la brise, tout le roman disparaît. C'est un peu la tristesse de l'histoire, mais en même temps, c'est sa vérité.
Oui, d'ailleurs, on avait vu un téléfilm qui était assez éloquent en négatif sur, je crois que c'était sur France 2.
Oui, oui.
Qui avait été d'ailleurs...
Un biopic.
Oui,
un biopic. Comme on dit aujourd'hui.
Biographic picture.
Exactement, voilà.
Voilà.
Et avec l'idée d'épique aussi derrière.
Ah hein. Oui, avec, c'est vrai. Il y a le côté épique.
C'est un terme qui correspond bien au produit.
Voilà. Mais qui était un ratage total, pourquoi vous l'avez vu, vous l'avez critiqué.
Un de mes amis historiens m'a appelé, il m'a dit, écoute, j'ai vu la première partie en avant-première, si tu n'es pas, si tu ne t'étouffes pas d'apoplexie ou autre, tu me donneras ton avis. Oui. ça disait déjà tout ce qu'il en pensait. Non, c'est impossible, on ne peut pas trafiquer l'histoire comme ça. Parce que quand on a interrogé ce monsieur qui avait fait ce film, à la Martinique, il a dit textuellement, à France Antilles, le journal local, oui, d'accord, j'ai pris des libertés avec l'histoire, parce qu'on m'a dit, mais vous prenez quand même de drôles de libertés. Les journalistes savent ce qu'ils font, tout de même, n'est-ce pas, mon cher Joël? Et ils posent les bonnes questions. Alors, il a dit, mais moi, j'ai un message à faire passer, et pour faire passer le message, il faut tordre le cou à l'histoire. Ah oui, mais alors on ne présente pas le film comme un biopic ou une biographie ou un film historique. On dit, c'est un roman. J'ai fait un roman en prenant comme idée la vie de Toussaint Louverture. Et je l'ai arrangé à ma manière. Mais on le dit. Et ça, il ne l'a pas dit, évidemment.
Oui, oui, c'est vrai que c'est très problématique lorsque ça passe à la télé. Enfin, des fois, on est un peu... On peut être, en tant qu'historien ou même amateur d'histoire, on peut être choqué par certaines représentations de l'histoire. Bon, on va fermer la parenthèse.
Oui.
Parce que néanmoins, bon, 5% du trafic à Bordeaux, hein, du trafic de bordelais est consacré à l'esclavage, donc au trafic des esclaves,
à la traite.
Hein.
Oui, oui.
Mais sur place, à Haïti, on est quand même dans l'arbitraire le plus total et... dans des conditions absolument horribles.
Ah oui.
On va pas.
Ah, bien entendu.
Vous le dites.
Voilà, il faut faire.
Très nettement, il n'y a pas,
pas
d'ambiguïté.
Absolument. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté à avoir. Quoi. La privation de liberté, c'est déjà énorme. Mais déclarer juridiquement, officiellement, que telle catégorie d'hommes est meuble ou objet, ça nous paraît aujourd'hui tout à fait impossible. Et personne ne peut avoir une idée de ce type aujourd'hui. Alors en même temps, donc, il faut replacer ça dans un contexte historique. Il faut comprendre pourquoi éventuellement... Enfin, comprendre, expliquer. Parce que comprendre, on ne peut pas.
Essayer
même d'expliquer. Ouais. Bon, évidemment, ce sont des raisons économiques. Mais vous savez, que dira-t-on dans 100 ans du sort qui est fait aux enfants qui font des chaussures à $1 par jour actuellement en Indonésie ou ailleurs? Il faut y penser aussi. Que dira-t-on du sort qu'on fait dans une société comme la nôtre, très égalitaire à la femme, qui est moins payée que l'homme, 20%? Ben, ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. Je ne suis pas historien de l'an 2150, mais j'imagine ce que diront mes successeurs. Mais ils diront qu'on était assez barbares tout de même hein, aujourd'hui. Que du sort qu'on fait à nos jeunes avec des contrats à durée déterminée. Hein, c'est quasiment impossible aujourd'hui de choisir un métier correctement. Ça, ce sont des choses qui sont pas tout à fait normales dans une démocratie comme la nôtre aussi. Mais enfin, bon, c'est sans commune mesure avec ce qui se passait
bien sûr.
En Haïti, qui était une sorte de grande usine à produits exotiques, sucre, café, indigo, et puis selon le système colonial, avec interdiction de finir les produits là-bas. Il fallait que la colonie renvoie vers la métropole où se tenaient les raffineries, etc. Mais les planteurs là-bas, eux, qui étaient des Américains, c'est comme ça qu'on les appelait, que des aventuriers, il faut être clair, pour la plupart, enfin ceux qui restaient là-bas surtout, pas ceux qui profitaient des revenus ici, qui étaient un peu moins aventuriers, ont trouvé tout de suite des moyens de faire un sucre blanc, sans raffiner, avec des procédés locaux, les choses avançaient. Et elles avançaient vite, à Saint-Domingue, au plan technique. Hein, je me place ici uniquement sur le plan moral, non.
Non, ça ne bouge pas.
C'est la révolution qui, qui amène quand même... On ne peut pas dire que la révolution haïtienne est... est issu directement de la Révolution française, parce que ce serait lui enlever sa spécificité. Mais c'est un, la Révolution française est un catalyseur. Et comme dit Césaire, toute cette masse d'esclaves, c'est le grief généralisé, eux, ils n'ont rien à perdre. Eux, ils ont tout à gagner. Et donc, c'est le bon catalyseur pour eux. Parce qu'il faut voir certaines choses. Regardez aux États-Unis, la guerre de sécession. Les esclaves ne bougent pas, pratiquement. Faut se poser, c'est curieux. Comme, on a des questions à se poser, parfois. Hein, en histoire. Là,
il s'engage un peu quand même avec
assez peu, avec les armées assez peu. Et dans le nord, il y a tout de même 4 États esclavagistes.
Ouais.
Vous voyez, c'est, ouais, là, non, là quand même, la révolution joue un rôle de catalyseur important que la guerre de sécession n'a pas joué autant.
Donc, pour résumer, Haïti, je crois qu'on peut dire que c'est le bijou des Caraïbes, l'île la plus florissante, d'un point de vue économique.
Oui.
D'accord,
oui.
Pas d'un point de vue moral.
Et avance technique.
Et technique.
Sur la fabrication du café, du sucre, etc.
Même les Anglais qui, en colonie, à l'époque, sont au top, puisqu'on a, on est après la guerre de 7 ans, donc, ils sont envieux de cette
île. Tout à fait.
D'ailleurs, ils essaieront plusieurs fois de...
Ah oui, comme, selon leur bonne habitude.
Ouais.
Et c'est vrai que cette colonie à elle seule produisait plus que toutes les autres colonies insulaires, espagnoles, anglaises, hollandaises et même danoises de la Caraïbe. C'est énorme. Et il suffisait de la tenir pour tenir les trois quarts de la production de sucre mondiale. Et plus de la moitié du café mondial. Et d'ailleurs, quand elle s'effondre, parce qu'après l'indépendance, évidemment, on ne procède plus du tout de la même manière. On ne peut plus garder ces ateliers qui sont des sortes d'usines où les esclaves ne veulent absolument pas revenir. Eux, ils veulent avoir leur petit jardin, et c'est normal, dans les mornes, comme on dit là-bas, dans la montagne, au calme. Pas travailler comme des bêtes dans un atelier où on fait les 3-8. Parce que les 3-8, on les fait, là, à Saint-Domingue, la nuit, quand il faut passer la canne à sucre au moulin... Et il faut pas attendre, sinon la canne s'égrille, on peut plus faire de sucre avec, le vesou, le jus de canne n'est plus bon, etc. Donc vous voyez, quand Saint-Domingue s'effondre, c'est Cuba qui prend la suite, et avec l'apport des colons français pour le sucre. Et pour le café, c'est la Jamaïque, avec un dénommé Laborie, qui est de la région, qui était avec les Anglais, parce que les Anglais ont envahi un collaborateur, si vous voulez, pour le maintien du système esclavagiste. Et alors, il passe à la Jamaïque et il apporte l'art du café à la Jamaïque, à la française, comme on faisait à Saint-Domingue. Et ce qui nous donne aujourd'hui ce très bon café du Blue Mountain que vous connaissez certainement. De même que le sucre cubain, tout le monde sait qu'après la révolution haïtienne. Et c'est d'ailleurs peut-être une des causes qui ont fait que Cuba a gardé aussi longtemps l'esclavage, ou le Brésil, vous voyez. Parce que là, ce sont des pays de sucrerie. Hein, Cuba est...
Alors, je voudrais préciser maintenant que...
Et le coton, pardon. Oui. Et le coton aux États-Unis. La guerre de sécession, c'est le coton aussi. Hein. Le Sud, c'est le coton. Mais avant la chute de Saint-Domingue, le coton, c'est Saint-Domingue aussi. Vous voyez. Donc ça rayonne, quoi. Et de même que Toussaint rayonne.
Voilà, alors, je voudrais juste préciser que vous connaissez très bien, vous avez vécu 25 ans donc, dans cette région des Caraïbes, donc vous connaissez très bien cette île, et que parfois, vous la décrivez comme quelqu'un qui y a grandi. Hein. Vous avez une empathie avec le sol même d'Haïti, qui est assez rare dans un ouvrage biographique. Donc on est très bien situé avec la toponymie, la généalogie, et on ressent vraiment ce qu'était la vie à Haïti à cette époque. Hein. C'est très... Alors d'ailleurs, aussi pour les esclaves, puisqu'on arrive très vite à Toussaint, notre sujet. Donc Toussaint qui est affranchi. Alors, je voudrais savoir comment ça se passe. C'était quoi, finalement, affranchir un esclave dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle à Saint-Domingue?
Oui, alors, il faut contextualiser dans la structure sociale, hein, qui est pyramidale. Vous avez une masse énorme d'esclaves au bas de la pyramide. Ils sont plus de 500 000, près de 600, parce qu'il y a beaucoup de fraude sur les déclarations pour éviter le temps par tête à payer, ce qu'on appelait la capitation. Au-dessus, vous avez une classe qu'on appelle intermédiaire, pudiquement, qui est la classe des gens de couleur et des noirs libres, qui ont été soit affranchis, soit nés libres, parce que leur mère était libre, puisque c'est la mère qui donne la liberté. Comme dans le droit romain, c'est la liberté et par le ventre, comme dans le droit romain. Donc si la mère est libre, affranchie par son maître, par exemple, elle a été la ménagère, comme on disait pudiquement, d'un colon, qui l'a franchie pour la remercier de ses bons soins. L'enfant peut être mulâtre, évidemment, parce que ça peut. Mais même si elle a un enfant d'un esclave noir, ben cet enfant sera libre, parce que sa mère est libre. Vous voyez ? Bon, ça, c'est la classe intermédiaire. Les mulâtres, les noirs libres. Et au-dessus, à peu près aussi nombreux, et peut-être un peu moins, vous avez une trentaine de milliers aussi de blancs, qui sont des colons, qui sont les seuls régnicoles, c'est-à-dire ceux bénéficiant de tous les droits du royaume, économique et politique. Parce que la classe intermédiaire ont des droits économiques, mais pas les droits politiques. Ils ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas se présenter naturellement au poste, ils ne peuvent pas commander les milices, ils ne peuvent pas accéder à l'état de blanc. Et c'est là que ce qu'on appelle le préjugé de couleur, qui est une autre abomination qui vient se greffer sur la base de l'esclavage. Et qui donne aujourd'hui, dans toutes les Antilles, de sérieux problèmes qu'on traduit pudiquement par le terme « question de couleur ». La question de couleur, dans n'importe quelle île des Antilles, c'est quelque chose d'important. Et ce préjugé veut que la moindre goutte de sang noir fait qu'on ne peut jamais atteindre le niveau du blanc. Parce que c'est ainsi que l'on pense, à l'époque, se protéger de cette masse qu'on tient sous la férule servile. Voilà, c'est ça. Alors, comment on affranchit quelqu'un ?
Oui, qui affranchit ? Parce que affranchir oui. un esclave, finalement, c'est un geste très important. Puisque
oui.
Déjà, pour une société où l'économie, qui est obsédée par l'économie, un peu comme
oui.
la nôtre, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
c'est perdre de l'argent.
Absolument. Et plus que ça, c'est qu'il faut payer une taxe d'affranchissement. Alors, j'imagine bien que le colon, qu'il soit blanc ou qu'il soit mulâtre ou noir libre, parce que même les noirs libres avaient le droit d'avoir des esclaves, puisque ce sont des objets. Là, on n'est même plus dans le préjugé, ce sont des objets. C'est encore pire. À ce moment-là, un noir libre, un mulâtre, un blanc peut affranchir son esclave parce qu'il l'a bien servi, parce qu'il lui a sauvé la vie, il y a toutes sortes de cas de figure, ou parce que simplement c'est son bon plaisir, et qu'au moment de mourir, beaucoup, en faisant leur testament, se disent « Oh là là, comment je vais me présenter là-haut, moi, avec tout ce que j'ai fait ?» Notamment avec ma femme, ma concubine, que j'appelle ménagère, mais qui enfin a été ma femme, puisqu'il n'y a pas assez de femmes blanches, alors on se sert dans les objets. Et on fait des enfants. Mais alors, qu'est-ce que je fais au moment de mourir ? Bon, alors on les affranchit. On donne un peu d'argent sur le testament. On a un exécuteur testamentaire qui est tenu de faire tout ça. Voilà comment ça se passe, les affranchissements. Et alors, Toussaint, lui, il est effectivement, et c'est là que c'est important, il est noir, libre, affranchi. Il n'est pas noir libre de naissance, parce que sa mère était esclave. Il n'est pas noir libre parce qu'il a... libre parce qu'il a pris sa liberté lui-même, et ça, ce sont les fugitifs, les marrons, qui sont dans les montagnes. Ça, ce sont les plus respectables, si vous voulez, ceux qui mènent la lutte, qui disent « Mais moi, je ne veux pas être esclave, je vais me battre. » Ils partent dans la montagne, mais c'est une vie épouvantable, parce que, évidemment, on leur fait la course. Et qui leur fait la course ? La maréchaussée. Et c'est qui, la maréchaussée ? Eh bien, c'est les mulâtres et les noirs libres, qu'on utilise pour faire la maréchaussée, sous le commandement d'un blanc, puisqu'ils peuvent pas commander. Et donc, et troisième catégorie, il est affranchi, je vais dire, pour faire simple, pour service rendu au système.
Mais Bayon de Libertad...
À 33 ans.
À 33 ans. Alors, bon, Bayon de Libertad, son propriétaire, qui est un Gersois, je crois, enfin un Gascon,
oui.
Landais.
Non, Gersois. Non, Gersois. Aux confins du Gers et de la Haute-Garonne.
Très bien. Bon, donc,
Boulogne-sur-Gers.
Très bien. Donc, un Gascon l'a franchi parce qu'il l'a... décelé chez cet homme des capacités, une intelligence. Il l'aime bien.
Hein. Oui.
Il l'apprécie. Il décide de la franchir.
Oui.
Et que fait... Alors, quand on la franchit, on donne un petit terrain, c'est ça hein.
Il y a
un petit...
Alors, Toussaint, c'est un cas encore plus extraordinaire que ça, parce qu'on pense qu'il était d'origine royale et que son père, qui avait été transporté d'Afrique, était un général... d'armée, d'une branche cadette des rois d'Alada.
Donc c'est au Dahomey.
Oui, au Dahomey. Et que quand il est arrivé, ça c'est la légende, hein, ça c'est quasiment invérifiable, Je dis quasiment parce qu'on peut vérifier certaines choses. Quand il est arrivé sur la plantation, certains esclaves se sont prosternés devant lui, des aradas, comme on les appelait aux îles, parce que, comme en gascon, le L devient R entre deux voyelles. Vous connaissez ce phénomène. Alors, les aradas se prosternent devant lui. Et le maître, voyant cela, c'est-à-dire Bayon de Libertà qui est gérant, parce que le maître, lui, il est en métropole, le comte de Noé est en métropole à ce moment-là, et il n'est d'ailleurs même pas encore le comte de Noé, c'est encore Breda, le beau-père, mais enfin passons. Eh bien, le gérant, donc, lui donne, au père de Toussaint, un petit morceau de terre dans un coin de la plantation, à cultiver, avec même un ou deux esclaves pour l'aider.
Enfin, c'est ce que ça, c'est ça, à peine affranchi, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des esclaves.
Et voilà, c'est mais même avant, parce que là, il a ce qu'on appelle une liberté de savane, le père. C'est-à-dire que ça, c'est le moyen de ne pas payer la taxe, si vous voulez. L'esclave qu'on apprécie bien, ou dont on se méfie un peu, parce qu'on sent qu'il a de l'influence, ou bon, lui, on lui dit, bon, toi, tu te mets là, tranquillement, dans un coin, hein, tu auras une vie différente, on ne va pas te faire travailler au jardin, comme on dit, dans la coupe à la canne, ou dans la sucrerie. Voilà, et moyennant quoi, on s'en fait, si vous voulez, une espèce de client à la romaine, quoi. Il doit quelque chose, ce noir-là, maintenant. Tout ça a été dans cette situation. Parce que c'est comme tous les grands hommes, c'est l'archétype du grand homme, Toussaint. Il a sa face d'ombre et sa face de lumière, si vous voulez. Alors, on nous le présente toujours dans la lumière, le grand général. C'est vrai, tout ça est vrai, très intelligent, etc. Personne ne va nier ça. Mais il faut arrêter de répéter toujours les mêmes choses en histoire. Il faut chercher du nouveau. Et c'est là...
C'est là qu'intervient l'historien.
L'historien. Les historiens.
Les historiens. Mais vous, en l'occurrence. Alors, ça y est... Il est né, il est affranchi, oui. On voit Haïti, le contexte, et je voudrais bien essayer d'en faire un portrait physique, parce qu'on ne peut pas trop se fier sur la statue qui est rive droite à Bordeaux, qui n'a aucune signification,
comme aucune ressemblance.
Voilà. Alors on va essayer, vous voulez bien faire un portrait physique, c'est assez amusant parce que...
Oui, ça ressemble un peu à Napoléon, vous voyez. Effectivement, c'est un des traits de la ressemblance, parce qu'il y en a énormément.
On en reparlera.
Alors, c'est ça. Le premier, c'est la taille.
La taille,
oui. Alors, Toussaint, comme Napoléon, c'est 1m63, tout compris. C'est un petit bonhomme. la différence, quand même, avec Napoléon, c'est qu'il est beaucoup plus musculeux, surtout dans les cuisses, on le voit très bien, sur le seul portrait en pied authentique qu'on ait retrouvé, il y a peu. Parce qu'avant, on racontait n'importe quoi. Ou toutes ces images, là, vous voyez, ce sont des images un peu imaginaires de Toussaint. Voilà. Celle-là, c'est un tableau. J'ai préféré choisir carrément un tableau d'un peintre haïtien pour la couverture que de propager une image qui n'était pas bonne. Parce que l'image authentique, elle n'est pas très bonne dans la mesure où elle a été faite après son arrestation. Alors, il est complètement dépité. On voit bien que c'est un pauvre petit bonhomme qui a déjà plus de 50 ans à l'époque, quand il est arrêté. C'est dans l'ouvrage.
Dans l'ouvrage.
On l'a dégradé, il n'a plus ses épaulettes. Enfin, il a perdu tout son prestige, si vous voulez. Voilà. Mais c'est lui. Le voilà. Donc, pas très beau, et même assez laid. Hein, soyons clairs. Bon, je ne dirais pas, comme certains généraux français, il est laid même dans l'espèce noire. Je ne dirais pas ça. Mais tout de même, il n'est pas beau.
Non.
Ce qui ne l'empêche pas d'avoir du succès.
Alors, oui, là, effectivement, il a été peint à son arrivée à Brest. Donc, après un long voyage, éprouvant, après son arrestation, il sait qu'il va être enfermé, qu'il n'a aucune chance, puisque Napoléon ne pratique pas, disons, une justice très, très réconfortante pour le
Est-ce qu'il le sait ? En tout cas, il le pressent certainement, mais parce qu'il les demande, il veut être jugé, il veut... Mais Napoléon ne répond pas, point. Il ne répondra jamais.
C'est plutôt un homme faible, hein, on va dire.
Il est tombé de son piédestal, si vous voulez. Lui-même a gardé la conscience de ce qu'il a été et de ce qu'il est devenu. Parce que c'est ce que j'ai... On m'avait demandé de choisir une expression de Toussaint pour mettre en quatrième de couverture. Et lorsqu'on lui enlève son uniforme, il dit, par exemple, mais pourquoi m'enlève-t-on maintenant après l'avoir dégradé, pourquoi m'enlève-t-on ? Il avait gardé son uniforme, mais pourquoi m'enlève-t-on mon uniforme ? La couleur de mon corps nuit-elle à ma bravoure et à mon honneur ? Vous voyez, il a gardé quand même la conscience de ce qu'il est devenu. Parce que n'oublions pas, encore une fois, qu'il est parti du plus bas stade.
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est un homme qui s'est fait moralement, hein, oui, seul, mais aussi physiquement, parce que s'il commence, oui, il a un corps frêle,
oui,
mais
oui,
à la fin, c'est le centaure de la,
savane.
De la savane.
Comme l'appelle, oui.
Voilà,
oui,
donc c'est un homme très fort.
Et alors que quand il est né, les autres esclaves l'appelaient Fatra Bâton.
Fatra Bâton.
Ce qui en créole veut dire.
Gringalé.
Oui, voilà, quoi, mal fait, mal formé. Le fatra, c'est ce qu'on met à la poubelle, quoi. Hein, le fatra Bâton.
Donc il s'est fait physiquement et, disons. Politiquement,
hein,
c'est un homme qui s'est.
Et physiquement, oui.
Nietzsche, hein, presque avant l'heure.
Oui, oui. Mais c'est une sorte de surhomme, hein, il faut pas avoir peur de le dire, parce que mais même Bonaparte, on n'est pas obligé d'aimer Bonaparte, mais on peut voir quand même qu'il était, par rapport aux autres. Bon, ils ont été tous deux très opportunistes et servis par les circonstances. Ça, on est d'accord. Mais enfin, tout de même, pour arriver à ces sommets de direction des hommes, qu'ils ont atteint l'un et l'autre, et il faut tout de même au minimum avoir une certaine intelligence, un peu de la finesse, de la psychologie, de la connaissance du pays et des hommes. C'est ça qui a beaucoup servi tout ça. On a vu hier ou avant-hier un reportage sur les ONG, j'allais dire les multinationales. Quelle erreur, mais quelle idée en Haïti. Et on s'aperçoit que le problème, il est là, aujourd'hui. On envoie des gens qui ne connaissent rien au pays, voilà. Et à partir de là, ben, c'est impossible. Lui, tout ça, il connaissait les gens, il connaissait le pays. Il les aimait, il en était.
Donc, c'est, pour résumer, c'est un petit propriétaire, lorsque la révolution éclate.
Exactement. Il a même une petite fortune, une aisance, disons.
Ouais, voilà.
Oui, et des esclaves.
Et des esclaves.
Oui.
Mais donc, finalement, le système tel qu'il est, il s'en accommode, pour l'instant.
Eh bien, c'est-à-dire que, puisque le système l'a affranchi.
Voilà. Mais... Parce que lorsque la révolution éclate, il est plutôt royaliste.
Ah, il est royaliste.
Il est légitimiste.
Il est orléaniste.
Orléaniste, pardon.
Oui, oui, oui.
Oui, pardon. Et c'est aussi un dévot.
Oui, et un franc-maçon aussi.
Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez...
Oui.
Alors, ça c'est quand même intéressant.
Hein, oui, parce que c'était...
C'est pas un révolutionnaire, du tout.
Non, parce que c'est facile de dire. On peut dire, les esclaves, fatigués par des années, des décennies, des siècles d'oppression, se soulèvent comme un seul homme. Ça, vous le trouvez, vous le trouviez, parce que maintenant, on commence à comprendre un peu mieux. Dans tous les ouvrages, même les livres d'école, se soulèvent tout d'un coup. Mais on n'a jamais connu une révolution d'esclaves réussie dans toute l'histoire de l'humanité. Il n'y en a pas. Il n'y en a qu'une, c'est celle d'Haïti. Il faut se poser la question, pourquoi ? Et il y a un proverbe haïtien qui est très fort et qui dit... parce que, alors, ce proverbe, je vous le dis tout de suite, c'est « complot plus fort, passé Ouanga ». Le complot est plus fort que n'importe quel sortilège. Parce que, à partir de là, on a développé. Les esclaves, donc, se soulèvent spontanément et vont faire une cérémonie vaudou pour se concilier l'aide des dieux du panthéon vaudou, etc., etc., etc. Et on brode. Et on brode. Le premier qui en parle, c'est Damas. C'est un colon qui parle de cette cérémonie. En réalité, il y a eu deux réunions. Ça, je l'ai montré depuis quelque temps déjà. Il y a eu avant une réunion politique. Et ça, c'est Toussaint qui est derrière. Parce qu'avant cette réunion politique, il y a eu un conciliabule sur son habitation avec Bayon de Libertad. Et alors, l'un ou l'autre, on ne sait pas. Le colonel du régiment du Cap, Campbefort de la Motte-Beuzat, qui était d'Agen, ou le colonel Touzard, qui est son second, qui est devenu ensuite le fondateur de West Point, aux États-Unis. C'était un canonnier. Alors, l'un ou l'autre, là, c'est pas précisé, mais on sait qu'il y a eu un complot qui s'est organisé là, qui était soutenu par des gens comme Bacon de la Chevalerie, qui avait fait ses classes maçonniques à Bordeaux. Vous savez que le grand maître de la maçonnerie à l'époque, c'était le frère du roi, Gaston d'Orléans. Donc, il y a un complot dans lequel la maçonnerie est impliquée. Et ce complot, Toussaint va intervenir dans la conversation et se proposer pour le faire déboucher. Avec une arrière-pensée ou pas, ça on ne sait pas. Mais enfin bon, parce qu'il est clair qu'ensuite, il va confisquer cette révolution à son profit, à celui des Noirs, mais à son profit d'abord. Voilà, donc ça, c'est la vraie histoire, elle est là. Alors elle n'est évidemment pas facile à faire passer, parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on a brodé sur cette insurrection. Ce qui est important, c'est que Toussaint est la cheville ouvrière de l'insurrection de 1791 des esclaves. Il n'était pas... Alors, on vous dit, il était dans l'ombre, etc., ou on ne sait pas trop. Comment se fait-il ? Il a défendu sa plantation, c'est vrai. Il a empêché les émeutiers d'aller sur sa plantation. Il fallait qu'il ait une certaine autorité, quand même. Comment aurait-il pu, devant un tel rouleau compresseur ? Il y a eu, quand même, des dizaines d'habitations qui ont été brûlées. Et puis, l'habitation où il était, lui, Breda, elle n'a pas bougé. Il était là, elle n'a pas bougé. C'est assez curieux. Enfin, il y a un tas de choses, on pourrait vous dire les détails.
C'est l'intérêt de la vie, finalement, je trouve. Enfin, un des intérêts de sa vie, c'est que, vraiment, il n'est pas facile à suivre. Hein. Il est déconcertant.
Quoi. Il est déconcertant.
On va pas,
il est très secret.
On ne va pas trancher avec cet homme-là. On ne tranche pas.
Non.
C'est un ennemi de l'histoire binaire, hein, vraiment. Quoi.
oui, tout à fait.
On dirait qu'il avait construit sa carrière juste pour nous dire arrêtez de penser de manière, l'histoire de manière binaire, avec le bien, le mal, les bons, les méchants. C'est un des mots de la transmission historique, je pense. Et lui, il est carrément... on dirait qu'il faisait tout pour dérouter. Alors, si on veut le détester, on n'y arrive pas. Si on veut l'aimer à fond comme un héros, disons, d'Alexandre Dumas ou quelqu'un
d'autre,
on n'y arrive pas non plus. On est tout le temps pris de court.
On peut l'aimer.
On peut l'aimer.
Parce qu'à l'arrivée, il faut faire la balance, quoi.
Oui, c'est vrai.
Entre ce qu'il a apporté et ses côtés, vous savez, comme tous les grands hommes, et ses côtés d'ombre. Voilà. Mais j'avais intitulé un chapitre un jour « Pis-aller ou moindre mal ». Mais c'est mieux que ça. C'est pas un pis-aller, Toussaint Louverture, c'est pas un moindre mal. C'est-à-dire que si Napoléon avait été un peu plus intelligent, ça aurait pu être ça pour la France. Mais le problème, ce n'est pas la France. Le problème, c'est Haïti, c'est les esclaves. Vous voyez, il faut décentrer le regard, là. Il faut arrêter d'être français un peu, et puis voir...
Parce
que sinon, on comprend moins bien, quoi.
Parce que, là, globalement, Haïti, la Révolution française, ça se passe comment ? Parce qu'il y a la... Émancipation générale des esclaves, 1793. 93.
Voilà. 2 ans après l'insurrection.
Ça arrive à Haïti en 94, grosso modo, parce que...
93 en Haïti.
93 en Haïti.
Et en France, c'est ratifié en 94.
C'est ratifié en 94.
Oui, c'est la Révolution met 5 ou 6 mois à ratifier ce que les commissaires civils ont fait sur place sous la pression. C'est ça qui est important. En fait, les esclaves se sont libérés eux-mêmes. Vous voyez ?
Avant
le décret du 7 pluviose.
Bon.
En 2.
Oui.
En fait, on fête mal, je dirais, en France, ces affaires-là, parce qu'on fête 1848, qui arrive 50 ans après, quasiment. C'est énorme. Ça fait deux générations, au moins, si ce n'est pas trois. Les esclaves de la Martinique et de Guadeloupe, ils restent esclaves 2 ou 3 générations de plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, vous avez des gens, à la Martinique ou à la Guadeloupe, qui sont... très proche de gens qui ont été esclaves, arrière-grands-parents ou autres. Alors qu'en Haïti, c'est quand même une histoire beaucoup plus ancienne. Ça fait 2 siècles et quelques que c'est terminé, quoi.
Alors, là arrive la période militaire de Toussaint Louverture. Il faut en parler brièvement parce qu'on ne peut pas trop rentrer dans les détails, mais il faut quand même dire que c'était un vaillant soldat et un meneur d'hommes, un grand meneur d'hommes.
Et il a su organiser à peu près 4000 hommes autour de lui. C'est beaucoup, hein, 4 ou 5 000 hommes. À l'époque, on fait beaucoup de choses avec. Et il leur a donné un objectif, qui était la liberté des Noirs. Il leur a donné des moyens. Il leur a donné une organisation... une stratégie qui était plutôt une stratégie de surprise, de guérilla, vous voyez. Et à partir de là, il s'est imposé. Il s'est taillé une espèce de petit royaume dans la partie de l'Ouest, autour des Gonaïves, dans l'Artibonite.
Il s'est battu contre tout le monde, les Espagnols, les Anglais.
Parce qu'au début, il est royaliste, donc il est avec les Espagnols.
Voilà.
Et comme tous les chefs de l'insurrection d'esclaves, sont du côté des Espagnols. Hein.
Donc, parce que Saint-Domingue est divisé...
Ils passent la frontière, si vous voulez. Quand les Français réagissent, les colons réagissent, eh bien, eux, ils passent de l'autre côté parce que les Espagnols les soutiennent, leur fournissent des fusils, etc. Tout le monde veut s'emparer de cette belle colonie. Les Espagnols, les Anglais, les envahis de tous les côtés. Alors, lui, il est avec les Espagnols, comme Jean-François, comme Biassou, les autres grands chefs. Et puis, à un moment, ben, il se retourne contre les Espagnols, après des tractations avec un général français qui s'appelle Lavaux. Il massacre tous ses anciens amis sur son passage.
Dans son neveu.
Et il apporte à la République.
Dans son neveu.
Un peu plus tard, son neveu, oui. Moïse, qui lui trouvait qu'il ne faisait pas vraiment la révolution pour les esclaves assez, et qui était un peu l'aile gauche, si vous voulez, on dirait aujourd'hui, de la révolution noire. Et il le fait fusiller. Il le fait fusiller.
Pendant ce temps, en Europe, il y a un petit homme qui commence à.
Oui.
Pas à grandir, mais à devenir très important. Et alors, effectivement, l'histoire change un peu parce que ce petit homme, Bonaparte, premier consul, mais il décide de rétablir l'esclavage.
Et oui, alors ça, c'est encore une chose qu'on peut mettre au passif de Bonaparte. Hein, parce que Bonaparte, il faut être clair, hein, il a une vision, lui, qui va vers Rome. Voilà. Le problème de la France, c'est pas le même que celui de l'Angleterre. Nous, on n'est pas entouré de mer. Il y a une politique terrestre et elle va vers Rome, chez Bonaparte. Il ne voit pas que l'avenir est du côté de l'Amérique, là-bas, du tout. Et lui, son erreur, c'est tout de même de vouloir rétablir l'esclavage à Saint-Domingue avec une immense expédition, l'expédition Leclerc, alors que ces gens-là sont libres depuis un peu plus d'une dizaine d'années, ceux qui se sont révoltés en 1791, puisque l'exposition arrive en 1802. C'est impossible. Vous ne pouvez pas dire à des gens qui ont été libres pendant 10 ans, bon, maintenant, tu vas retourner à l'état d'objet, servir sur une plantation. Comme esclave. C'est absolument. Donc, c'est un échec épouvantable. C'est avant l'Espagne, avant la Russie. C'est le premier échec de Bonaparte. Mais ça, on n'en parle pas. Enfin, on n'en parlait pas. On en parle un peu plus maintenant.
Alors, on va reparler de Napoléon, parce qu'il y a quand même un chapitre très, très intéressant dans ce livre. Un des chapitres vraiment qui éclaire le personnage, justement, avec Napoléon. Mais alors donc, en 1801, Toussaint s'autoproclame gouverneur à vie, quand même.
Oui.
Voilà.
Il fait une constitution.
Voilà.
Voilà. Et il l'envoie, a posteriori, à Bonaparte. Bon, évidemment,
ouais.
ça ne passe pas.
C'est pas très bien
voilà.
reçu.
Alors, est-ce que... Bon, là, on peut se poser un tas de questions. Est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas? Que dire, on ne sait pas trop, hein, on ne peut pas avoir de preuves historiques là. Mais enfin, toujours est-il que tout en protestant de rester général français, etc., il fait d'abord. Il faut dire que ça s'est passé comme ça avant, comme je le disais, avec la libération des esclaves en 1793. La France a ratifié après.
Ouais,
donc il peut se dire, après tout, il y a un précédent.
Ouais.
Mais enfin, quand même, bon. Et évidemment, Napoléon ne l'apprécie pas du tout. Et c'est là que, enfin, c'est ce qui déclenche l'expédition,
ouais.
C'est l'envoi de cette constitution.
Parce que, en fait,
parce qu'il a des partisans français, comme le colonel Vincent, qui vont présenter la constitution à Bonaparte. Ils vont lui dire voilà, c'est très bien. Il va conserver la colonie à la France, parce que c'est pas une constitution indépendantiste,
ouais.
C'est plutôt autonomiste. Maintenant, qui peut dire ce qu'aurait fait Toussaint ensuite?
Mais bon, en général, du temps, donc alors, on est sous le consulat, hein. En général, les gouverneurs à vie, ils ne s'autoproclament pas. À cette époque-là, c'est plutôt Napoléon qui décide,
oui.
Plus ou moins. Donc, se voir mis un peu devant le fait accompli, peut-être, ça ne lui plaît pas.
Oui.
Est-ce que Toussaint Louverture est connu en France à cette époque-là?
Ah mais oui, bien entendu. Ah, mais il est connu, il défraye la chronique. Enfin, quand on lit les gazettes, on a des reportages de journalistes qui vont l'interroger sur sa vie. Bon, il raconte ce qu'il veut, lui, et le journaliste aussi, d'ailleurs.
Donc, c'est un peu un personnage de légende.
Alors, déjà, oui, parce que, bon, il n'a pas écrit, comme on dit, le premier des Blancs, le premier des Noirs au premier des Blancs. Ce n'est pas vrai, il n'a pas écrit ça. Mais il l'a dit, il l'a dit. Je suis le premier des Noirs, comme le premier des Blancs, etc. Mais j'ai pris mon envol à Saint-Domingue, dans la région où sont les aigles, enfin, d'une phraséologie. Il l'a dit.
Il est un peu pris par son personnage là.
Ah bien, oui.
Un peu.
Ah mais il y met beaucoup
aujourd'hui
de...
le melon. Pour,
mais oui, mais il y met beaucoup de conviction.
Absolument.
Et je parlais de ses succès avec les dames. Quand on va perquisitionner chez lui, on va trouver une petite cassette avec des mèches de toutes les couleurs, comme on disait à l'époque. Hein.
Ouais.
Voilà.
Alors, Chateaubriand, qui est au courant de tout ce qui se passe, évidemment, l'appelle le Napoléon noir. Alors, on ne sait pas si c'est pour rabaisser Napoléon ou si, dans son esprit, ou si c'est pour hausser, parce que Chateaubriand, les rapports de Chateaubriand avec Napoléon étant problématiques, on ne sait pas si c'était pour rabaisser le Corse, oui, ou pour rehausser l'Haïtien, finalement.
Je pense qu'il y a un peu des deux. Parce que la formule, elle est quand même très, très forte. Le Napoléon blanc a imité et tué le Napoléon noir.
Donc, ouais.
Y a une volonté de dénigrement de Bonaparte qui est quand même très nette.
Qui aurait imité Toussaint l'ouverture, ce qui est quand même.
Et oui. mais c'est
pas ça. Fort, en plus.
Il a 25 ans de moins, Bonaparte.
C'est ça. Voilà. Bonaparte est le cadet de Toussaint. Donc,
c'est un gamin par rapport à Toussaint.
Ouais, c'est ça. Qui s'en soit inspiré.
Mais sauf que lui, il est arrivé directement à l'école militaire à Brienne. Je crois qu'il va falloir, c'est vrai,
oui, respecter
l'horaire pour poser des questions, si vous voulez. Mais ça, c'est un des points de similitude. Origine noble, petite noblesse chez Bonaparte. Mais... Noblesse incertaine, je dirais, chez Toussaint, parce que c'est un peu légendaire. Oui. Mais en tout cas, lui, Bonaparte, il peut aller à l'école militaire. Tandis que l'école militaire, pour Toussaint, ça a été monté de l'esclavage au pouvoir, en passant par l'insurrection, et ça a été l'école de la vie, je dirais. Et ça, c'est pareil, personne ne s'était intéressé, je crois, à ces années de formation de Toussaint. Alors, je reconnais que ce n'est pas toujours facile de les suivre, parce que là, il faut aller voir dans les registres, il faut aller voir dans les cartes, il faut aller voir dans les dossiers du personnel, les carrières, etc. Et par exemple, quand on regarde les cartes, on voit un plan de son habitation. L'habitation, c'est la plantation où il vivait. Et on voit que là, il y avait un camp militaire. Mais ça n'a traversé l'esprit d'aucun de mes collègues historiens avant. Et ça, je ne comprends pas, parce que c'est énorme.
Oui, vous connaissez tellement bien le terrain, Jacques Le Conin. C'est ça, vous êtes chez vous.
Oui, là. Mais alors, il faut aller voir quand on ne connaît pas le terrain. Il faut au moins aller voir, parce que c'est vrai que vivre dans une plantation qui est traversée par une caserne en cinq morceaux, il y a cinq baraquements là, il a vu toute sa jeunesse, et depuis qu'il est enfant, des militaires. Vous savez le pouvoir qu'ont les démonstrations militaires sur les enfants. On le dit pour Pétion, qui a été le premier président de la République d'Haïti, qui se promenait sur la place du Champ de Mars en suivant toutes les revues militaires, comme font les enfants avec un petit sabre en bois ou autre. Mais tout ça, il a vécu ça depuis tout petit. Donc, on ne devient pas général comme ça, un militaire de génie du jour au lendemain, quand même. Ça, première chose. Deuxièmement, il y avait à côté l'hôpital des Jésuites. Et quand il devient le chef des révoltés, il s'intitule médecin général des armées du roi. Médecin général des armées du roi. C'est extraordinaire. Et alors, il y a un jésuite qui témoigne qu'il l'a vu servir dans cet hôpital à table. Donc, il a été au contact des soins qu'on donnait aux soldats de l'hôpital, du camp militaire qui était sur sa plantation, dans l'hôpital de la Charité des Jésuites, juste à côté. Vous voyez, ce sont toutes ces petites choses qu'il faut révéler si on veut comprendre le personnage, parce que sinon, c'est pas de la génération spontanée. Je ne connais pas Spartacus dans le détail, mais il n'est pas arrivé comme ça non plus, Spartacus, vous comprenez ? C'est ça qui est important.
Non, c'est vrai, l'historien doit voir, mais il doit aussi sentir. Et ça, c'est beaucoup plus rare. C'est-à-dire comprendre... Et franchement, vous transmettez ça. Et finalement, on sait peu de choses sur... Et tout est sur ce personnage, et tout est dans ce livre. Avec beaucoup de dossiers, des index. Enfin, tout est là, quoi. Et c'est vrai que... On pourra peut-être tout à l'heure reparler des points communs entre Napoléon, parce que des fois, c'est très drôle, parce qu'il y a aussi de l'humour. Mais on va peut-être laisser la parole à ceux qui désirent l'apprendre, que ce personnage, pas comme les autres. À un moment donné, vous dites que Napoléon aurait pu s'y prendre autrement.
C'est ce qu'il a dit.
C'est ça, Napoléon, à un moment donné, il a regretté, à Sainte-Hélène, il regrette.
Ah oui, oui. Hein,
lorsqu'il se retrouve un peu dans la position, finalement, de tout ça, position d'empathie.
Oui, c'est possible. Oui, oui.
Il a des regrets.
Et oui, et puis là, il reconnaît très clairement. Il le dit, et c'est dans les mémoires, qu'il soit recueilli par Omehara ou par d'autres, ou par son général aide de camp, là.
Bertrand,
voilà, merci. Et il dit très, très clairement, j'ai commis une grande faute avec Toussaint Louverture. J'aurais dû m'entendre avec lui et nous aurions eu une armée de quelques 100, 150 000 braves noirs qui m'auraient conservé l'Amérique.
L'Amérique, hein. Donc,
parce que c'était l'Amérique à l'époque.
Oui, parce qu'il a vendu la Louisiane. En fait,
hein. La Louisiane, c'était rien à côté. Quoi.
Ouais, c'est ça.
C'était une terre où on envoyait des bagnards. Voyez l'histoire de Manon Lescaut. Mmh. Hein. Mais Saint-Domingue, c'était la plus riche colonie du monde. Et quand on écrivait un tel colon américain, américain à l'époque, ça voulait dire colon de Saint-Domingue. Et là Bonaparte, il a compris. Il a regretté, il avait compris.
Bon, merci beaucoup.
Merci à vous, mon cher Joël.
Merci beaucoup.